Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, minutes. Effectivement, on défait le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier, la joyeuse bande, l'info avec un autre œil jusqu'à 19h. Le menu Cyprien. Ce soir, on défait le climat. Jusqu'à 50 degrés attendus en Inde et au Pakistan dans les prochains jours. Des phénomènes climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents. Alors, pour mieux réaliser, vous allez découvrir ce que ça fait sur notre corps de vivre sous 50 degrés. Au menu également, l'incroyable première étape du Tour de Grèce cycliste. Un parapluie à 12 000 euros et l'homme le plus fort de France. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Dès que l'on trouve de l'ombre, on garde notre touc-touc. Plus vous avez des cheveux, plus vous avez chaud. Alors regardez, j'ai rasé mes cheveux, je porte une casquette.
Ce témoignage d'un conducteur de touc-touc à Delhi en Inde, entendu sur BFM, qui illustre la difficulté de vivre sous 50 degrés à l'ombre. Des températures affolantes en Inde et au Pakistan, des phénomènes climatiques extrêmes auxquels l'homme risque de devoir faire face de plus en plus souvent. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu savoir ce que ça faisait sur notre corps de vivre sous 50 degrés.
Comment réagit-il ce corps à ces conditions extrêmes? Quels sont les symptômes et qu'est-ce qui est le plus dur d'ailleurs? Le très chaud ou le très froid?
Pour le savoir, on a contacté quelqu'un qui a, si j'ose dire, donné son corps à la science, puisqu'il a volontairement expérimenté les effets de ces conditions extrêmes. C'est l'explorateur, chercheur et écrivain Christian Clot. Il dirige l'Institut de recherche Human Adaptation Institute et surtout, il a réalisé des expéditions Adaptation 4 fois 30 jours en milieu climatique extrême, expériences durant lesquelles il a notamment traversé le désert iranien sous, tenez-vous bien, 57 degrés. Et sous telle chaleur, ben voilà ce qui se passe dans votre corps.
La première chose, c'est une impression de sécheresse absolue dans la bouche. Vous ressentez des goûts de fer dans la bouche parce que votre corps essaie de lutter. Vous allez ensuite avoir très rapidement des douleurs dans les membres. L'eau est nécessaire à chaque cellule de votre corps. Or, quand vous avez une absence d'eau, les cellules n'ont plus le rapport et chaque cellule commence à annoncer à votre corps « Hey, j'ai un problème ». Donc, elle vous fait mal. Donc, vous ressentez une incapacité de le bouger et l'impression que vous n'êtes plus capable d'agir.
C'est quoi comme douleur?
Vous avez une sensation un peu comme lorsque vous avez la grippe, par exemple. Vous avez cette douleur dans le dos, vous avez l'impression que toutes vos articulations vous font mal. Et puis ensuite, la peau qui commence à signaler aussi. Donc, c'est assez surprenant parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît habituellement, puisque habituellement nous avons des points de douleur précis. Là, c'est l'ensemble du corps qui vous signale. Alors, si on n'écoute pas immédiatement ces douleurs-là, ça peut devenir très dangereux.
Et il y a d'autres symptômes provoqués par ces chaleurs extrêmes?
Oui, en fait, tout vous paraît presque insurmontable.
On est vraiment dans des conditions qui sont quasiment invivables. C'est des pressions de chaleur qui sont extrêmement violentes et les premiers jours, on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est terrifiant. Votre corps doit fournir un tel travail pour résister à cette chaleur qui s'épuise très très vite.
Et c'est quoi ce travail?
Alors c'est un travail du cœur qui essaye de fluidifier le sang, qui essaye de trouver des solutions pour rafraîchir le corps. Il a besoin d'énormément d'eau. Le problème c'est qu'à cette température-là, quand vous touchez les 50 degrés, l'eau s'évapore très très vite de votre corps. Ce qui veut dire que à l'instant où vous buvez une gorgée d'eau, elle a tendance à s'évaporer avant même que d'avoir pu faire son travail de refroidissement du corps. Donc tout votre corps se réchauffe. Si vous continuez ce réchauffement, vous allez basiquement, comme une cocotte minute, exploser.
C'est affolant. C'est intenable comme situation, ça.
Oui et non. Car au cours de son expérience immersive, donc, notre chercheur a constaté une forme de magie du corps humain.
Moi, j'ai mis 5 jours pour commencer à accepter la douleur que représentaient ces températures. Et puis ensuite, on va dire une dizaine de jours pour considérer que j'étais arrivé à un rythme fonctionnel qui me permettait de vivre dans ces conditions-là. Cela dit, est-ce que j'aurais pu y rester plus de 30 jours? Toute la question se pose. Il faudrait pas que ces pics de chaleur dépassent les 1-2 mois.
Donc, au bout d'un moment, le corps s'adapte.
Alors, son corps à lui, en tout cas, oui. Après, faudrait réaliser l'expérience avec beaucoup plus de monde pour en tirer des conclusions plus générales.
Vous disiez un peu plus tôt que Christian Clot, là, qu'on entend, il a aussi expérimenté la vie sous d'autres climats extrêmes.
Oui, chaleur et humidité maximale en Amazonie, froid terrible en Sibérie.
Moins 58 degrés hein, quand même.
Très 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 froid. Ou encore froid humide, mais en Patagonie ce coup-ci. Et pour lui, le plus dur à vivre, ça a été...
Les expériences les plus difficiles, c'est les expériences qui nous confrontent à des changements très rapides. La Patagonie, par exemple, où on a des changements extrêmement rapides de conditions, on peut avoir dans 24 heures presque 24 typologies météorologiques météorologique dans la même journée, donc c'est très rapide. Le corps a beaucoup de mal à s'habituer à ça. C'est plutôt ce qu'on va vivre dans le nord de la France, pour le coup. Bretagne, Normandie, vous passez d'une pluie assez dense à tout d'un coup un grand soleil. Vous passez de la grêle à moins 10 degrés à soudainement 15 degrés. C'est ce genre de changement qui peuvent tout d'un coup avoir une amplitude de température de plus de 25 degrés en quelques minutes.
Conclusion, dans un climat extrêmement extrême mais stable, ben là, le corps peut s'habituer. En revanche, ben quand ça change tout le temps, comme chez vous en Bretagne, il finit par s'épuiser. Et puis alors, je vous dis, vous pouvez retrouver, vous pouvez retrouver sur RTL.fr l'intégralité de cet entretien. Ça dure 10 minutes, c'est absolument fascinant.
C'est absolument passionnant. Christian Clot, l'homme qui a donné son corps à la science, en quelque sorte.
RTL, sous les radars.
Et en effet, maintenant, l'info passée sous les radars.
Direction l'Espagne, qui n'échappe pas à la hausse du prix de l'électricité. Sauf que... bah pour faire des économies, les Espagnols ont pris une décision plutôt radicale, Laurent.
Oui, ils ont diminué le nombre de métros à Madrid. Et pour le comprendre, il suffit de regarder la facture électrique quotidienne très salée pour le métro madrilène. 120 000 euros en temps normal, 800 000 euros actuellement.
Ah oui.
Voilà. Donc les autorités ont donc décidé de diminuer le nombre de trains de 10%. Et aux heures de pointe, la réduction sera plus limitée à hauteur de 4%, ce qui représente 311 trains au lieu de 324.
Et ce genre d'idée, ça peut arriver chez nous ou pas?
C'est peu probable. Déjà, c'est une décision politique qui peut être difficile à prendre, car ce ne sont pas les opérateurs de transport qui décident de réduire leurs services pour baisser les coûts, mais les collectivités qui prennent la décision. Ensuite, tout est normalement prévu pour faire face à cette flambée des prix de l'électricité. Arnaud Aimé est spécialiste des transports chez Sia Partners.
La majorité des opérateurs de transport public consomment énormément d'énergie et d'électricité. En revanche, ils passent souvent des contrats de long terme avec les énergéticiens pour être couverts en cas de hausse des prix. Donc, dans la plupart des cas, les opérateurs de transport ne subissent pas l'augmentation immédiate de l'électricité. Donc, il n'est pas à exclure des décisions dans les prochains mois ou prochaines années, mais ça, c'est difficilement immédiat.
Et si vous êtes à Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes et Toulouse, vous devriez donc garder pour le moment le même nombre de métros et c'est valable aussi pour le tramway.
Oui, il ne faudrait surtout pas supprimer des métros sur la ligne 13 à Paris, par exemple.
C'est une demande personnelle. On sent l'utilisateur.
Pour les touristes, c'est rendez-vous en terrain connu, la ligne 13 du métro à Paris.
Petite pause. Des moments de grâce, non?
Des moments de grâce.
Futur Premier ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Allez, une petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec une première info pour briller au dîner avec Jacques Dutronc autour de la table. Yes.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, bonne fin de journée, RTL Soir à vos côtés. On continue de défaire le monde et on vous offre une première info pour briller tout à l'heure au dîner.
Une info qui concerne l'immense Jacques Dutronc qui fête aujourd'hui ses 79 ans, sa file. Bon anniversaire Jacques. Et Laurent, cette anecdote méconnue sur le chanteur.
Oui, une chanson de Jacques Dutronc qui a eu un bon coup de pub gratuit grâce à un homme politique. Pompidou s'est inspiré de la chanson Les Cactus, sortie en 1966, pour faire passer un message. Quelques mois plus tard, en 1967, en fait, les élections législatives ont provoqué des tensions parmi les gaullistes.
Déjà ?
Déjà, vous imaginez. Et le Premier ministre Pompidou se présente quelques jours plus tard devant l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Il sort ces mots.
Vous spéculez sur des divisions illusoires à l'intérieur de la majorité. Et à ce propos... croyez bien que j'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus.
Oh là là, mais il est branché, Pompidou.
Une petite pique lancée, ça c'est fait. Un attaché de presse formidable pour Jacques Dutronc. 400 000 disques sont vendus en deux semaines d'un seul coup. Et Georges Pompidou qui invitera même Jacques Dutronc par la suite à Matignon pour venir chanter son tube.
Oh, c'est formidable. Génial. Formidable. Très très belle anecdote pour briller ce soir au dîner.
Aïe aïe. Défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Vous attendiez avec impatience, comme chaque soir, son verdict. Winner ou loser du jour? Alors ce soir, Céline Landreau, comme souvent, a choisi un loser, mais en même temps, quel loser? C'était une évidence.
Ah bah ouais, non, un grand perdant formidable, le Tour de Grèce cycliste. Alors, c'est un peu comme le Tour de France, mais en Grèce.
Merci Cyprien. Voilà.
Puis un peu moins de stars du vélo aussi. Et pourtant, la première étape d'hier valait vraiment son pesant d'or. Céline, un régal même.
Oui, parce que ça n'aura pas échappé aux amoureux de la petite reine, comme on dit. Depuis hier, le pays du vélo... c'est la Grèce, puisqu'hier, après 10 ans d'absence, débutait le...
18e Tour international du Hellas, ou plutôt devrait-on dire... le Tour de Grèce, hélas, c'est l'appellation en grec ancien de la Grèce.
Voilà pour la petite parenthèse lexico-culturelle, mais venons-en à cette première étape du Tour de Grèce aux commentaires des journalistes d'Eurosport.
On vous promet une course animée.
Et alors, à ce niveau-là. C'est vrai qu'on n'a pas été déçus. Hein. Bon, au départ, une échappée, quatre coureurs, puis un seul en tête.
Et à l'avant, il y a un homme, Aaron Gate, qui s'est défait de ses trois compagnons d'échappée.
Oui, Aaron Gate se rend en tête tranquille, enfin tranquille. Moyennement tranquille, puisque niveau organisation et fléchage, c'était pas tout à fait au point.
Que se passe-t-il? Oh là là. Aaron Gate qui se demande où dois-je passer, qui manque de renverser un piéton. Ça en devient comique. Aaron Gate qui ne savait pas où se diriger.
Ouais, apparemment le parcours n'était pas hyper bien balisé. Le coureur échappe de justesse à un papy qui traversait sur un passage piéton, hein, quand même. Plus de peur que de mal pour le Néo-Zélandais qui s'est imposé quelques minutes plus tard.
Victoire donc d'Aaron Gate sur cette première étape du Tour de Grèce 2022.
Ouais, victoire, fin de l'histoire. Enfin, pas tout à fait, parce qu'hier, il n'y a pas que la signalétique qui était défaillante. Niveau communication n'était pas au top non plus, puisque deux minutes plus tard, les poursuivants arrivent près de la ligne d'arrivée et là, un homme lance le sprint comme un dingue.
Là, il y a un coureur de l'équipe Caraoual. Il s'agit d'Edouard Pradès qui va remporter le sprint de ce peloton. Il pense lever les bras. Et...
Ah, vous avez entendu ce bruit? Oui, alors qu'il a les bras en l'air sur la ligne d'arrivée, sûr de sa victoire.
Incroyable chute de l'Espagnol après l'arrivée. Et c'est sa selle qui s'est décrochée de son vélo. Improbable scène.
Ah oui, improbable scène, ça c'est sûr. Le gars qui pensait gagner et qui donne tellement pour célébrer sa victoire qu'il en casse sa selle et se retrouve au sol, à terre. Et deuxième, hein, puisqu'en réalité...
Prades qui, semble-t-il, n'était pas informé de... Eh bien qu'un coureur était encore présent à l'avant.
Ah ouais, un coureur qui a déjà franchi la ligne d'arrivée deux minutes plus tôt. Bel ascenseur émotionnel pour l'Espagnol.
Ouais, je pensais que j'avais remporté l'étape, donc j'ai célébré la victoire.
Et ouais.
C'était un peu spectaculaire. Je me suis un peu trop appuyé sur ma selle, et j'ai cassé la selle, et le vélo est parti.
Eh ben ouais, le vélo est parti sans lui, donc. Décidément, après cette première étape, on se demande pourquoi on nous a privés pendant 10 ans d'un tel spectacle.
Bon, je pense qu'il va falloir suivre très attentivement dans l'émission ce Tour de Grèce.
C'est formidable.
On vous promet donc un compte rendu étape par étape avec Céline Landreau. Ouais. Formidable, le loser, magnifique cet Espagnol. Je vous invite à aller faire un petit tour sur Internet, vous retrouverez très facilement la vidéo.
Elle est, ça la chute est remarquable.
La chute est
assez remarquable.
Assez pathétique.
Et en plus, on peut rigoler parce qu'il se fait pas mal.
Voilà, non, voilà, il y a pas mal. Et lui-même en rit à la fin, donc tout va bien.
C'est magnifique. Allez, petite pause. Dans un instant, nouvelle info pour briller au dîner. Avec le parapluie du président de la République. Oui, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, bonne soirée à l'écoute de RTL. On défait toujours le monde dans RTL Soir. 18h54. Nouvelle occasion de briller tout à l'heure au dîner. Nouvelle info, nouvelle anecdote, c'est cadeau.
Vous l'avez peut-être aperçu sur les images hier du Tomato Cerise Gate, du jet de tomate sur Emmanuel Macron. La sécurité a immédiatement déployé un drôle de parapluie pour protéger le président. C'était quoi, Céline ?
Eh bien, il s'agissait du Parapactum, un parapluie en triple toile de Kevlar. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais ce textile en fibre synthétique est plus résistant que l'acier. Donc, ce parapluie d'apparence banale protège bien sûr de la pluie, merci, mais aussi des jets de pierre, d'acide, des lancers de parpaing, des tirs de carabine à plomb, des coups de couteau, bref, protection très efficace.
Des lancers de parpaing.
Encore plus avec les tomates cerises. Vous imaginez, ça résiste à des parpaings, les tomates, c'est facile. Ouais. Mais c'est un parapluie qui pèse et dans tous les sens du terme, plus de 2 kilos et surtout près de 12 000 euros.
Oh oui, mais par contre, quand il y a du vent, il ne se retourne pas.
Ah non, ça résiste à l'aise. Jusqu'à 200 km/h.
200 km/h.
Ah ouais.
On est tranquille. Le Parapactum, donc, c'est ça.
Exactement. Et ben, fabrication française, monsieur.
Ouais. La Made in France. Bleu, blanc, rouge, normand. Je vous donne le point, Céline. C'est une super anecdote.
Merci.
J'aime beaucoup.
Et moi, Pompidou, c'était pas mal.
C'était bien, Pompidou et Dutron.
C'est vrai que Pompidou et Dutron,
aujourd'hui. Hein, ouais.
Bah, tout va être mieux. T'es le droit d'être meilleur, Cyprien, c'est la vie. Hein.
Déjà, je suis le chef, donc je décide. Mais je vais faire preuve de mansuétude et je vais donner un point à Laurent.
Ah, le peuple gagne toujours.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, vos projets les plus dingues. Et dites donc, Cyprien, nous sommes jeudi.
Et comme tous les jeudis...
Ah.
Bah, il y a du sport. Et en plus, il y a l'Olympique de Marseille qui joue ce soir. Donc ça, c'est la musique d'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille. Puisque c'est jeudi sport, on met en valeur vos projets, vos défis sportifs les plus incroyables. Et ce soir, Laurent, on prend des nouvelles d'un étonnant champion qu'on avait déjà eu dans cette rubrique en début de saison.
Oui, le 16 septembre, nous étions avec Aurélien, l'homme le plus fort de France, Strongman. Et il ne soulève pas trois cartons au championnat de France. Non, rappelez-vous.
On a alors des tirages de camions de 20 tonnes, on va soulever des pneus de 500 kilos, soulever des voitures.
Ouais, quand même. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Je rappelle que vous avez déjà été élu 2 fois homme le plus fort de France en 2019 et 2020. Alors là, actuellement, vous en êtes où dans le championnat ?
J'ai regagné en 2021.
Bravo d'abord.
Bah oui, bravo.
Merci. Et j'ai remis donc mon titre en jeu là pour 2022. J'ai gagné la première manche donc, qui était à Corbeil-Essonnes il y a 3 semaines. Et donc j'aurai la deuxième étape là, du championnat de France dans 3 semaines à Tarbes pour essayer de conserver mon titre.
Et à chaque étape, ce sont les mêmes épreuves ?
Non, à chaque fois, il y a une rotation. En fait, dans nos disciplines, on a une 20aine d'épreuves à peu près. Et à chaque compétition, on va retrouver 5-6 épreuves à faire. Et on connaît les épreuves un peu à l'avance, comme ça on a le temps de se préparer dessus.
Et alors, c'est quoi comme épreuve, justement ?
Des Atlas Stone, c'est les fameuses boules en béton à soulever.
Les fameuses.
Voilà,
ouais. Moi, j'en soulève rarement.
Les épreuves phares des Strongman. On aura ce qu'on appelle des farmer walks, donc c'est des valises, donc on aura 150 kilos dans chaque main, et on devra parcourir 20 mètres le plus vite possible. Ensuite, on va devoir déplacer des sacs de sable qui font 135 kilos, et on aura un tirage de camion.
La dernière fois, quand vous avez eu au téléphone, justement, vous nous disiez que vous vous entraîniez avec le camion de pompiers de votre commune, c'est toujours le cas ?
Eh oui, c'est toujours le cas. Ouais. Je vais chez mes collègues et mes camarades pompiers là pour m'entraîner. Parce que j'ai pas de camion chez moi, malheureusement. Donc, ils me prêtent gentiment de temps en temps leur véhicule.
Et vous arrivez à le tirer à main nue, quoi. C'est fou, quoi.
Voilà, ouais. On a un harnais, en fait, et on a attaché au camion et on le fait avancer juste avec la force de nos jambes et de nos bras, ce qu'on tire sur une corde en même temps.
Et maintenant, il le tire même avec le frein à main. Mais quoi, en fait,
j'ai pas essayé, mais bon, non. Donc,
Et ça devient de plus en plus populaire dans les sports de force.
Oui, depuis. Moi, ça fait longtemps, ça fait 14 ans que je vous dis que je fais des sports de force. Mais là, depuis 4-5 ans, on a une grosse médiatisation par rapport à nos disciplines, c'est très bien. Merci à vous d'ailleurs de parler de notre sport. Sachant qu'à l'étranger, c'est déjà extrêmement développé dans pas mal de pays. Mais ça va, on prend le bon chemin en France.
Et juste une question, c'est quoi la circonférence en centimètres de votre biceps ?
En Allemagne, j'avais fait une compète, on avait mesuré avec les autres athlètes pour s'amuser, j'étais à 58 centimètres.
Moi je suis à 6.
C'est un bon début, c'est un bon début.
Je peux presque faire le tour avec ma main.
Ben merci Aurélien, et puis on peut vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, votre compte Aurélien Strongman.
Et bonne chance pour la deuxième manche.
Oui, surtout. Ouais.
Merci à vous.
Merci Aurélien. Et si vous voulez regarder des petites vidéos d'Aurélien, parce qu'il est quand même très très impressionnant ce garçon, allez faire un petit tour sur les réseaux sociaux de RTL. On vous a glissé un petit cadeau avec l'équipe dont défait le monde.
Ça donne des idées pour s'entraîner.
Ça donne des idées pour le week-end. Demain, 18h40, ce sera vendredi, on refera nos
régions.
Et on vous retrouve très bientôt dans RTL Soir, les amis. Très bonne soirée. Dans un instant, le journal de 19h pour refaire un point.